qu'a posé Anne-Lise tout à l'heure. Quel personnage représente le mieux la force, selon vous ? Un roi, un soldat, un bébé. Quel personnage représente le mieux la force ? Alors vous me direz peut-être, ça dépend du roi, ça dépend du soldat, et ça dépend du bébé aussi. Certes, je serais d'accord avec vous. Mais partant du principe que le bébé en question est Jésus, le Christ, quel personnage représente le mieux la force ? Pour vous, Jésus n'est-il qu'un petit bébé dans une crèche ? Ou est-ce qu'il est plus que cela ? Comment est-ce possible de croire que ce petit bébé, né dans une pauvre étable, comme on vient de le chanter, est en réalité la personne la plus importante du monde ? Alors l'histoire de Siméon, qu'on a entendue par Anne tout à l'heure, nous permet de résoudre cette question, de répondre à cette question. Et avec Paul, donc, à deux voix ce matin, on vous propose de voir comment on peut répondre à cette question. Et on va faire ça au travers de l'histoire de Siméon, en regardant à la fois en arrière, aux promesses que Dieu a faites, et en avant, avec la vie de Jésus et ce que Jésus va accomplir. Et on voit ça déjà dans le texte de Siméon.
L'histoire de Siméon. L'histoire de Siméon, c'est comme un point géométrique sur une droite. Je sais que vous aimez les maths. Imaginez une grande droite, les enfants. Et au milieu, il y a un point. Est-ce que ce point, c'est le... Deux segments, deux grands segments. Le point du milieu, est-ce que c'est la fin du premier segment ou le début de la suivante ?
Un peu les deux, en fait. Hein. Un peu les deux. L'histoire de Siméon, c'est exactement ça. C'est un point au milieu d'une droite et c'est en même temps la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Et quand on est sur le point, on peut regarder soit en arrière et regarder la fin de ce qui s'est passé, soit c'est le début de ce qui va se passer et c'est le début du point. Quand le point, c'est le début de la suite.
Alors quand on regarde en arrière, justement avec Siméon, on s'aperçoit, et donc Anne nous l'a bien raconté tout à l'heure, et la Bible elle-même nous le dit, on s'aperçoit qu'un sentiment a semblé dominer une bonne partie de sa vie, même sans doute la majeure partie de sa vie, ce sentiment, c'est l'attente. On voit ça au verset 25 de ce passage, en Luc 2. Au moment de la naissance de Jésus, Siméon, comme le peuple d'Israël, est dans l'attente vis-à-vis du salut promis par Dieu. À ce moment-là, ça fait 400 ans, donc 4 siècles, peut-être un peu plus, qu'il n'y a plus de prophète pour parler de la part de Dieu au peuple d'Israël. Une longue période de silence, même si Dieu continue à être là et à accompagner son peuple, parce que Dieu est toujours là. Malgré tout, il n'y avait plus de prophète pour parler de la part de Dieu. 4 à 5 siècles, ça fait long. Je ne sais pas si vous réalisez, les enfants, peut-être que vous, ça ne vous parle pas du tout, comme ça. Mais ça fait plus de 10 générations. C'est très, très, très long. Ça fait beaucoup de temps.
10 générations, c'est arrière, 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 grands-parents.
Tout ça. Ça fait beaucoup de temps.
Peut-être plus ou moins un.
Un très long silence. Alors peut-être que du coup, pendant tout ce temps-là, certains avaient oublié les promesses de Dieu contenues dans le livre des prophètes. Mais Siméon, lui, n'a pas oublié. C'est un homme juste et pieux, nous dit la parole en Luc 2, qui connaît Dieu. Il connaît Dieu. Et donc, il vit dans l'attente. Mais mettons-nous quelques instants à sa place. Dieu lui a révélé qu'il verrait un jour le Messie, le Sauveur. Est-ce qu'on peut imaginer, si on se met à sa place, imaginer un instant, qu'est-ce que c'est que de vivre dans une telle attente? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est comme ce sentiment d'attente, de frustration que vous connaissez quand on est, par exemple, chez le médecin. On est dans la salle d'attente et le médecin, il appelle tout le monde sauf nous. On attend son nom, on est là, et ça appelle, et celui de gauche, il se lève, et celui de droite, il se lève, et celui qui est arrivé après nous, il se lève, et on voit les heures passer. Vous le connaissez, ce sentiment de frustration, d'attente? Quand est-ce... Ou alors quand vous êtes à la gare, que vous attendez que votre train y parte, ou vous attendez le quai ou alors vous êtes allé à l'aéroport, vous attendez quelqu'un, et il y a tous les avions du monde qui arrivent, sauf le vôtre. On le connaît, ce sentiment de frustration, hein. Quand est-ce que ça va être mon tour? Quand est-ce que cette période d'attente va finir? Et pour Siméon, ça devait être pire que le dentiste et l'aéroport réunis.
Alors avec la naissance de Jésus, Siméon comprend que cette attente arrive enfin à son terme. Et alors qu'il accueille Jésus dans ses bras, il comprend à qui il a réellement affaire. Ça, on le voit au verset 31 et 32. C'est le salut préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus, il apparaît pas vraiment comme ça. À ce moment-là, Jésus n'est qu'un petit bébé. Mais Siméon sait, il croit par la foi, que Jésus est plus que cela. Et sa seule présence suffit à remplir de joie et de paix le cœur du vieil homme. Ça lui suffit.
C'est exactement ce sentiment de joie. C'est comme quand vous êtes chez vous attendez, il y a des amis qui doivent arriver, et ça fait, ils ont du retard, et d'un seul coup, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez la sonnette. Alors là, je fais
le buzzer.
Vous entendez la sonnette, ça y est. En fait, ils sont pas encore véritablement chez vous, ils sont pas encore à table, mais ça y est, c'est gagné. Vous entendez la sonnette, vous entendez la voiture qui se gare. Ça y est, la période d'attente est enfin terminée. Vous savez, le sentiment de joie. Ou alors, comme les enfants qui attendent Noël, c'est pas encore Noël, mais les parents sont en train de prendre la voiture pour aller chercher le sapin au magasin. Ok, on n'est pas encore à Noël, mais ça y est, les parents qui se mettent en route pour aller acheter le sapin, ça y est, la joie de Noël, elle est déjà là, même si le sapin n'est pas encore là. Vous voyez ce... Hein, Samuel, je vois que tu ouvres la bouche comme ça, je pense que tu vois ce que c'est là. La joie de voir le sapin qui est en train d'être installé. Voilà. Et je pense que pour Siméon, le fait de voir Jésus, ok, Jésus n'était qu'un petit bébé, mais à ce moment-là, ça y est, pour lui, le déclic, ça y est, ça y est, c'est là, ça commence.
Peut-être que vous posez une question, malgré tout. Comment est-ce que Siméon pouvait connaître la véritable identité de Jésus? Comment il pouvait savoir? Au moins, il faut savoir que ce petit bébé était plus qu'un bébé, à savoir le Fils de Dieu. Dieu fait homme, le sauveur du monde. Alors comme Anne nous l'a rappelé, ça lui a été révélé par le Saint-Esprit, on voit ça au verset 26, mais nul doute que Siméon connaissait aussi très bien, très très bien, les écrits bibliques des prophètes, en l'occurrence, qui donc se rapportent au Messie promis, et qui devait venir. Et je vais lire du coup un extrait d'un de ces prophètes, le prophète Ésaïe, et qui, au chapitre 9 et des versets 5 et 6 de son livre, donc, nous dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà ce qu'annonçait Ésaïe, plusieurs siècles avant la venue de Jésus, 600 ans exactement avant sa naissance. Pourtant, on retrouve dans ce texte, bien qu'il ait été écrit 600 ans avant la naissance de Jésus, on retrouve la même tension, finalement, que dans l'histoire de Siméon. Un enfant est né, mais il est en réalité beaucoup plus qu'un enfant. Il est à la fois l'homme le plus important du monde et Dieu incarné. Et si le Dieu incarné, l'homme le plus important du monde, n'est encore qu'un bébé, pour Siméon, finalement, ça n'est pas grave. Sa joie est la même, parce qu'il sait qui est véritablement Jésus.
C'est exactement comme si là, maintenant, il y a, je ne sais pas, Zidane qui rentrait dans la salle. Et normalement, c'est bon à peu près, niveau générationnel, c'est bon à peu près tout le monde. À la limite, si vous savez qui il est, même s'il n'a pas encore touché un ballon, même s'il n'a pas ramené la Coupe du Monde, même s'il n'a pas de ballon, même s'il n'a pas son maillot de foot, vous savez qui il est, Et on va dire pour qui il est, on serait déjà, je ne sais pas, ou alors Mbappé, ou alors Platini, en fonction de la génération, vous remplacez en fonction de votre génération le footballeur. Mais voyez, il y aurait cette joie-là de savoir comment on sait qui il est. À la limite, même s'il n'a encore rien fait, s'il ne nous a pas encore fait une petite démonstration de foot, c'est pas grave, on sait qui il est, on sait ce qu'il représente. Ou alors Lionel Messi pour les Argentins. On sait qui il est, on sait qui il est, on sait ce qu'il représente. Et donc, même s'il n'a encore rien fait, cela procurerait de la joie. Et pour Siméon, avec Jésus, c'est pareil. Il sait qui est Jésus. Et donc, même si Jésus est encore un bébé, il n'a encore rien fait, ça le remplit de joie déjà parce qu'il a compris qui est Jésus. Il sait qui est Jésus. Donc, peu importe si Jésus a encore rien fait, il est dans la joie.
Voilà si on regarde avec Siméon en arrière aux promesses qui étaient celles de Dieu. Mais en tenant Jésus dans les bras, Siméon se projette aussi en avant. Donc, poussé par le Saint-Esprit et fort de sa bonne connaissance des Écritures. Il comprend ce qu'est réellement venu accomplir cet enfant, ce qu'il va faire. Et même si Siméon, évidemment, il n'est pas non plus, il n'est pas devin, il ne connaît pas tous les détails de la vie de Jésus, et en particulier les détails de sa mort, il croit par la foi que Jésus va accomplir pour le monde entier une œuvre de salut, une œuvre de réconciliation avec Dieu. Il n'a pas toutes les informations, mais il est intimement convaincu que le grand plan de sauvetage de Dieu est en marche avec Jésus. La naissance de Jésus est donc un nouveau commencement. C'est un peu comme les prémices de quelque chose de formidable, de grandiose.
Quand on est sur notre point là, au milieu de la droite, soit on regarde en arrière, soit on regarde en avant. Et le point veut aussi dire le début de la suite. C'est comme quand vous êtes au cinéma, vous attendez le... voilà, ça fait longtemps, ça commence, il est déjà 8h20. Et quand d'un seul coup les lumières se baissent, c'est autant la fin de l'attente que la promesse de ce qui va commencer. C'est autant la fin de l'attente que la promesse. Et donc il y a l'excitation, non seulement parce que c'est bon, on n'a plus à attendre, mais aussi parce que ça y est, le film pour lequel on est venu voir va commencer. Ou alors, autre image, en 1944, j'imagine ceux qui ont vu, les Français, les résistants, qui ont vu en Normandie les premiers bateaux au loin arriver du débarquement. Vous voyez, c'était déjà autant le synonyme de la fin, quoi, l'espoir d'avoir fini l'occupation, que ça y est, ça va commencer, la libération est imminente. Vous voyez, et donc avec Siméon, c'est pareil, quand il voit Jésus, il comprend que ça y est, c'est le début, ça va commencer, la libération qu'on attendait, elle est imminente, même si à l'instant même, elle est encore sous la forme d'un petit bébé. Mais c'est pas grave, on y est, ça commence, ça ce pourquoi j'attendais va commencer. Vous voyez ce sentiment de nouveau de joie, de dire ça y est, on y est.
Mais c'est vrai qu'à première vue, ce texte de Luc 2 n'est pas forcément le mieux choisi pour affirmer que Jésus est l'homme le plus important. Encore une fois, il n'apparaît que comme un petit bébé à ce moment-là. Certes, les anges ont annoncé au berger, donc, que le Sauveur était là, ça c'est Charles qui nous l'a rappelé avec la lecture, et Siméon l'a aussi considéré comme ça, avec foi, mais il se trouve que Dieu s'incarne sous la forme d'un bébé, d'un homme. Et si on peut affirmer que Jésus est l'homme le plus important, le plus puissant, c'est à la fois sur la base des textes qui le décrivent ainsi, donc j'en ai lu un dans Ésaïe, et aussi, surtout, parce que 33 ans après sa naissance, donc si on se projette dans l'avenir, Jésus, devenu adulte, va accomplir sa mission de salut en vainquant l'ennemi le plus puissant. Cet ennemi, c'est la mort elle-même. La mort, c'est le seul ennemi dans l'histoire de l'humanité qui n'a jamais vraiment, du tout même, pu être vaincu. La seule chose que tous les êtres humains ont à affronter un jour. Et si Jésus est là pour vaincre cet ennemi, le plus grand des ennemis, c'est qu'il est le plus fort.
Si on voulait savoir qui était le plus puissant, le plus fort d'entre nous, on ferait, je ne sais pas, un concours de bras de fer, Et à la fin, celui qui gagnerait, il serait déclaré. Mais si quelqu'un arrive et bat le plus fort d'entre nous au bras de fer, c'est qu'il est le plus fort. Et donc Jésus, en gagnant l'ennemi que personne n'avait réussi à battre, montre qu'il est le plus puissant. Est-ce que les enfants, vous savez, c'est comme les cartes Pokémon. Est-ce que vous savez le nom de la carte Pokémon la plus puissante ? Les cartes Pokémon, ils se font des batailles, et j'ai des cartes, la mienne bat la tienne, et c'est celui, évidemment, plus c'est cher, quoi, plus la carte Pokémon a de la puissance, plus elle a des sous. Elle s'appelle comment ?
Il y en a beaucoup, mais il y a Dracaufeu, par exemple.
Alors moi, j'ai fait une recherche Google. il est peut-être dans les plus forts. Alors moi, d'après Google...
Nous, on n'a pas ce nom-là.
D'après Google, moi, j'ai, s'il vous plaît, la carte qui s'appelle... Eternatus Vemax.
Oh.
Ah, elle est pas mal.
Elle est rare.
Elle est rare. Ah, mais attends, Jésus, il n'a pas 12. Hein.
C'est 3€
Et il y en a une qui s'appelle aussi Pokémon Illustrator.
Celui-là, dans les millions.
Dans les millions. Eh bien, Jésus, plus de millions. Hein.
Il y en a deux.
Et voilà, plus on va prendre une carte haute, plus elle est capable de battre les autres, plus ça veut dire qu'elle est la plus puissante. Et Jésus, dans un sens, c'est ce qu'il a fait. En battant l'ennemi que personne n'avait jamais réussi à battre, il montre qu'il est le plus puissant. En battant là, non pas le Pokémon, mais l'ennemi, ce que personne n'avait jamais réussi à vaincre, alors il montre qu'il est le plus puissant et le plus important du monde.
Et quand on affirme que Jésus a vaincu la mort, on ne parle pas seulement de la mort physique. Cette mort que Jésus a vaincue, c'est aussi, et je dirais même surtout, celle qui nous sépare d'avec Dieu en raison de notre rébellion, de notre envie de vivre sans lui. Cette mort-ci, d'ailleurs, elle est même plus grave que la première parce qu'elle implique une séparation éternelle pour ceux qui ignorent Dieu. Quelle tristesse d'être pour toujours loin de Dieu. Et cette réalité, elle nous concerne tous, depuis Adam et Ève, jusqu'à nous, aujourd'hui, et donc en passant aussi par Siméon. Mais la bonne nouvelle que l'Ancien Testament annonçait déjà, et que Siméon avait comprise, et à laquelle il croyait par la foi, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu allait en personne résoudre cela. Il n'allait pas attendre qu'on s'en sorte, qu'on essaye de s'en sortir tout seul. Non, Dieu allait donner un fils, Jésus, son fils, l'homme parfait, qui se chargerait lui-même de nos fautes et nous réconcilierait avec le Père en mourant à la croix. Il accorderait ainsi la vie éternelle à ceux qui se repentent et qui croient en lui. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais si ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? En voyant Jésus arriver, Siméon a compris qu'il serait bientôt possible d'être pleinement sauvé, pardonné, réconcilié, adopté, libéré, transformé et fortifié. Et comment ? Eh bien, à travers ce que Jésus allait faire, à travers sa mort et sa résurrection.
C'est comme dans ces scénarios de films, que vous avez déjà tous vu, où il y a la fin, il y a la bataille, et puis il y a toujours le héros. Qu'est-ce que fait le héros dans un film ? Il y a une grosse bataille, et le héros, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est celui qui est sur son truc de commandement, là, sur sa tour d'ivoire, et qui dit à la Napoléon, et qui dit aux troupes, faites ci, faites ça, allez-y, et bon courage. Est-ce que c'est ça les films qui nous font vibrer ? Est-ce que c'est ça les films qui nous... Hein, non, c'est pas ça, les scénarios hollywoodiens, c'est pas ça. Comment ça se finit un bon vieux film hollywoodien avec une bonne vieille fin comme ça, là ? Le héros qui bat le méchant, le héros qui tout seul dit « J'y vais, vous avez tous... vous, quoi, voilà. » Et qui se jette dans la bataille. Et même dans certains films, le héros, voilà, il va... J'ai un film, j'ai plus le nom en tête, mais où il va se battre contre le roi viking, je sais pas quoi. Et en fait, et même il tombe dans la mer et il se sacrifie en mourant. Il se jette, voilà, dans la bataille. Donc non seulement, comme ça, grâce à ça, son peuple est sauvé. Et lui, et là, ça c'est le petit film qui nous fait verser la petite larme. Et pas le héros qui reste dans sa tour d'ivoire à donner des commandements et des règles. Jésus, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et si les scénarios hollywoodien calque sur ce scénario-là, c'est bien que c'est l'exemple ultime de bravoure, d'amour, de courage, de dévouement. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il n'est pas venu sur terre pour nous rappeler ce qu'on devait faire. Mais il est venu pour faire à notre place, vivre la vie parfaite dont nous étions incapables et mourir à notre place. Donc c'est ça. Et Hollywood n'a rien inventé. Hollywood n'a rien inventé. Et c'est ça. Et la prochaine fois que vous regarderez un de ces films-là, vous y penserez.
Permettez-moi juste de relire la prière que Siméon adresse à Dieu en Luc 2, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Voici ce que dit Siméon. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, à la lumière de la Bible, Siméon avait bien raison à propos de Jésus, n'est-ce pas ? Et ce petit bébé qu'il tenait dans ses bras était bel et bien le Messie, le libérateur, c'est-à-dire l'homme choisi par Dieu pour sauver le monde de sa rébellion. Et bien qu'encore bébé, Jésus est l'homme le plus important de l'histoire, par ce qu'il est et par ce qu'il va faire. Offrir le salut à tous les peuples. Je propose de le chanter, ça, avec le cantique suivant, donc on va ensemble, sur tous les peuples, justement, dans la nuit. C'est le titre de ce cantique.
Siméon, vous l'avez compris, s'est profondément réjoui en voyant Jésus, en comprenant qui est Jésus et ce qu'il va faire. Mais son discours, il n'est pas totalement terminé. Et les experts bibliques que vous êtes ont vu qu'il y avait des versets qui suivaient, qui étaient un peu sur un ton un peu différent de, pour l'instant, de ce qu'on a lu. Et je continue au verset 33 de Luc 2. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Tu m'étonnes. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Cet enfant est destiné à la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Hein, ça, c'est des versets qu'on n'a pas trop l'habitude de lire pour Noël. Hein. Ça, c'est pas forcément les versets qu'on met sur les cartes postales en disant « Un enfant nous est né ». Cet enfant est destiné à être un signe de contradiction et à provoquer autant la chute de certains que le relèvement d'autres en Israël et ailleurs. Alors, le but, n'est pas de rentrer dans les détails de ce texte, mais l'idée qu'annonce Siméon, c'est que la personne extraordinaire de Jésus, que Jésus est, parce qu'il va faire et parce qu'il est, eh ben, ça ne va pas faire l'unanimité. Que ça ne va pas se faire sans heurts, que l'œuvre de Jésus ne va pas se faire sans accroc, qu'il va y avoir de la contradiction, et que les pensées profondes de certains vont être révélées. Et c'est vrai, hein, c'est quand il y a de la contradiction, quand il y a l'épreuve, et nous-mêmes, entre nous, on dit que c'est que nos pensées profondes, notre caractère véritable, sont révélées pas dans les jours de beau temps, mais des fois dans les jours de difficulté, dans les jours d'épreuve. Et là, effectivement, les pensées profondes, les caractères, ce que l'on croit vraiment. Et la personne de Jésus, effectivement, par son discours, par sa perfection, par son être, par son appel à la repentance, eh ben, est venu révéler ce qu'il y avait dans bien des cœurs. Et des fois, ça a permis de voir la foi formidable de certaines personnes. Et dans les évangiles, on voit des passages extraordinaires. Et des fois, malheureusement, ça révèle aussi l'endurcissement ou l'idolâtrie. Je pense au jeune homme riche, je pense aux pharisiens, je pense à plein de personnes qui, face à Jésus, ça a plutôt révélé leur chute. En tout cas, il va en être de même avec Jésus. Et à son époque, encore aujourd'hui, la personne de Jésus est une personne qui aboutit à de la contradiction. Parlez de Dieu autour de vous, les gens diront peut-être d'accord. Parlez de Jésus, dites que vous suivez Jésus, ça apportera probablement une réflexion. Sa personne, son œuvre, son message conduisent certains à s'endurcir, conduisent d'autres
à se tourner vers Dieu. Et Siméon nous donne un bel exemple de foi. Un bel exemple de foi. Tout à l'heure, dans quelques instants, après le chant, on aura l'exemple d'un autre témoignage de foi. Comment, effectivement, Jésus peut être synonyme de contradiction, de chute ou de relèvement. Le suspense est total. La foi est nécessaire pour comprendre et pour apprécier les bénédictions de Dieu. Certaines bénédictions de Dieu veut nous offrir, on a besoin de foi pour. Et cette fois-ci, c'est Baptiste qui nous dit l'illustration.
Ouh. Alors, je ne sais pas si vous aimez les sensations extrêmes. Moi, je déteste ça. Très franchement, c'est quelque chose que je déteste. Mais imaginez, alors voilà, j'essaie de me projeter, parce que dans la vie, il faut savoir vivre dangereusement, des fois. Imaginez un saut en parachute. Parce que ça, c'est un peu comme le saut en parachute. Seul celui qui croit véritablement en la solidité de son parachute pourra profiter de ce moment-là. C'est tant est qu'on puisse en profiter. Mais vous voyez le parallèle. Pour vraiment profiter de ce moment-là, il faut vraiment croire, avoir la foi dans la solidité de son matériel. Sinon, il y a des chances qu'on passe vraiment un très très mauvais moment.
C'est, pour Noël, c'est pareil et c'est mieux que le saut en parachute. C'est encore plus extraordinaire, mais c'est pour profiter de Noël, pour profiter du message de Noël, pour profiter de la personne de Jésus, pour profiter des bénédictions de Dieu. Effectivement, cela se fait par la foi. Et si vous avez cette foi-là, si nous avons cette foi-là, il est probable qu'à Noël, notre joie soit immense. Et il est probable même que ça transforme notre vie, même jusqu'en janvier, après le mois de décembre. Voilà, en tout cas, c'était ce qu'on voulait vous faire montrer avec Baptiste. Je récapépète, Jésus, un point de bascule dans l'histoire. Siméon, il est un point de bascule, le milieu de la droite, si j'ose dire. Donc autant Siméon se réjouit de ce qu'il voit en arrière, il comprend qui est Jésus, il comprend ce que Jésus va faire en avant. Et à ce moment-là, ça nous pose la question, et Siméon est aussi là pour nous rendre témoignage de ça. Et Siméon est aussi là pour nous dire que la foi sera nécessaire. Et ça nous pose la question à nous, voilà, qui est Jésus pour nous, pour vous? Alors je pense que voilà, on est convaincu que ce n'est pas qu'un simple bébé, on est convaincu que ce n'est pas un simple nourrisson gouzou-gouzou dans la crèche, mais que c'est aussi le Dieu sauveur, le Messie, Dieu venu à notre rencontre, celui mieux que le roi viking, mieux que le débarquement en 44, mieux que la chute libre, mieux que tout ça. C'est ce que Jésus est faire et ça nous pose la question. Alors à nous de toujours plus suivre ce Jésus, suivre ce Messie, suivre ce Dieu sauveur. Et je peux vous garantir que votre joie à Noël n'en sera que plus grande. C'était ce qu'on avait à cœur de vous partager avec Baptiste et je vous invite à chanter un chant justement. C'est nous, au peuple fidèle, que nous soyons ce peuple fidèle qui puissions adorer notre Dieu sauveur venu à notre rencontre. Amen.